se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, l'iPhone 12 64Go reconditionné est à seulement 299€.
À ce prix-là, ça me fera un super cadeau de fête des mères.
En donnant une seconde vie à un produit reconditionné en France par les experts PRS.
Elle est pas belle, la vie ?
Auchan, avec plaisir. 50€ de remise immédiate sur l'iPhone 12 64Go reconditionné grade B, soit 299€ au lieu de 349. Valeur du DAS sur Auchan.fr. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. Kit main libre recommandé.
RMC.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, avec un trio aujourd'hui composé de Barbara Lefebvre, enseignante en reconversion, l'ancien policier du Raid, il est maire de Belfou dans l'Aude, c'est Bruno Pomard qui est avec nous. Et Charles Consigny, avocat, est avec les GG aussi. Le jeu, le coffre, les amis, vous m'envoyez coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16, on a un sacré cadeau à vous offrir. D'abord, dans l'enveloppe, vous aurez soit un iPad, soit une enceinte Marshall. Je vous conseille. Je l'attendais. Donc ça, vous y allez et vous gagnez. Si vous êtes joueur, vous me dites, écoutez, c'est cadeau, c'est bien, mais je veux mieux et je tente le coffre. Et si vous tentez le coffre, vous aurez, je l'ouvre, soit des AirPods, soit la Total Coupe du Monde. Et la Total Coupe du Monde, c'est une télé 170 cm avec la barre de son, la Xbox Series S, un four à pizza et un mini-bar.
Comme ça
peut être un bon début de semaine, non ?
Tu restes toute la Coupe du Monde devant la télé.
Ah ouais, tu bouges pas. Vous envoyez coffre par SMS au 732-16, coffre
c'est
par SMS
diète,
au 732-16. Vous vous inscrivez et vous jouez avec les GG tout à l'heure à 11h20.
En attendant, fait ça le week-end,
parlons de nos services publics.
Elle bouffe des pizzas sur
RMC, les grandes gueules.
Parlons de nos services publics. Attends. Avec cette enquête qui est sortie, 61% des Français estiment que les services publics aujourd'hui fonctionnent mal.
Oui, ça craque de partout, on le dit quasiment tous les jours dans les grandes gueules, école, justice, police, hôpital, transport, et les Français ont un jugement très sévère, ils estiment que ces services publics sont défaillants. Les deux cancres sont l'hôpital et la justice, malgré pourtant de récentes augmentations de budget, il faut le dire. Par exemple, il y a cette info, je ne sais pas si vous l'avez lu dans le JDD hier, c'est pour faire baisser, Charles réagira, l'avocat, mais pour faire baisser le stock de milliers de procédures bloquées dans les commissariats, les gendarmeries, eh bien les magistrats ont consigne de classer sans suite pour essayer de réduire le nombre de procédures. On a vu à l'hôpital la semaine dernière, on en parlait, on est quand même obligé de transférer les enfants atteints de bronchiolite, ça revient chaque hiver hein, la bronchiolite, de Paris à Lille ou de Lille à Paris pour pouvoir les soigner. On a appris ce week-end qu'une femme est morte encore à l'hôpital, elle était à jeun, on ne l'avait pas nourrie, elle est morte sur son brancard. Donc c'est vrai que on a même coutume de dire, on a l'impression que ce tiers-mondisé, en tout cas, on a des services publics qui fonctionnent mal. Pourtant, la France reste l'un des pays les plus imposés au monde, les plus redistributifs aussi. On n'arrive plus à recruter également. Plus personne ne veut devenir fonctionnaire, alors qu'avant, c'était quand même la sécurité de l'emploi, c'était la garantie d'avoir une carrière tout au long de sa vie. Mais les jeunes, ils ont plus envie de ça. Bref, c'est la honte.
Ah, mais c'est 32-16 pour en parler avec les GG. Barbara.
Juste une chose. Devenir fonctionnaire, c'est ça. Bien sûr, la sécurité de l'emploi, mais il y avait aussi autre chose.
Une fierté,
quand même,
une vocation.
Oui, un sens.
Dans l'enseignement,
l'intérêt général, servir l'intérêt général dans l'enseignement, mais dans la justice, oui, dans la police. L'idée, c'est d'être au service de l'intérêt général, bien sûr, en essayant d'avoir une carrière, bien sûr, en essayant de gagner sa vie et de faire vivre sa famille avec, ce qui n'est évidemment plus le cas. Mais d'abord, c'est le sens du métier. Et ce que vous disent tous les fonctionnaires, que ce soit les policiers qui démissionnent, les profs qui démissionnent, les juges qui n'en peuvent plus. Et je vous parle même pas de l'hôpital, c'est on a perdu le sens de nos métiers. Ça existe aussi dans le privé, ne croyons pas. Hein. La grande démission, elle est d'abord, il y a la question des salaires, mais il y a aussi la question, il y a plus de sens à mon travail parce que c'est les questions de management. Dans la fonction publique, ne nous méprenons pas non plus, il y a ce qu'on appelle le nouveau management public. Il y a eu des tentatives depuis les années 90 de transférer toutes les méthodes de management du privé dans le public, c'est ce qu'on a appelé le new management, le new public management, inspiré d'ailleurs du monde anglo-saxon. Et c'est ce qui a commencé à effriter aussi au sein de la fonction publique. C'est cette mission qui est une mission d'intérêt général. Je dis pas qu'on est des bénévoles ou qu'on en a le cœur sur la main, c'est pas ça. Mais on a perdu petit à petit et tout cela s'est fait en même temps que quelque chose qui touche les Français. Et je pense qu'il y a une partie de ceux qui ont été sondés qui ressentent ça, la numérisation. Ne vous inquiétez pas, les amis, ça va être beaucoup plus allégé votre travail parce que vous allez pouvoir tout faire sur ordinateur. Or, on voit que le boulot du prof, le boulot du flic, le boulot du magistrat et le boulot des infirmiers et des médecins à l'hôpital sont écrasés par la charge de travail administratif sur tapoter sur l'ordinateur, rentrer les données sur l'ordinateur, faire soi-même de la statistique. Tout ça vient aussi rendre les services publics moins efficaces, moins efficients.
Mais l'info là du JDD, tu le confirmes, toi, Charles, tu l'as vu ça, pour faire baisser le stock de procédures, on en classe de plus en plus.
Oui, probablement parce que la justice demande malheureusement énormément de temps. Une enquête, il faut voir, même les grandes enquêtes pour lesquelles on déploie des moyens très importants mettent quand même des années avant d'aboutir à quelque chose. Donc imagine les plaintes de droit commun des gens qui subissent je ne sais quel désagrément de leurs voisins ou je ne sais quelle agression avant que ça soit effectivement
même un
traité
familial aussi des divorces,
de toute
des
façon il faut être clair, la facilité de porter plainte maintenant à créer cette problématique.
Il faut être clair, il n'y a plus de service public de la justice. C'est l'hôpital, il y en a encore à peu près un, c'est-à-dire vous rentrez dans un hôpital, vous avez quand même a priori l'espoir qu'on vous soigne, bon faut l'espérer, vous inscrivez votre enfant à l'école,
oui, la garderie,
vous avez un petit espoir, je dis ça sans aucun mépris pour les fonctionnaires qui y travaillent, mais je parle des systèmes dans leur ensemble. En revanche, vous déposez une plainte ou vous assignez quelqu'un devant un tribunal, faut pas espérer obtenir un quelconque résultat. Ou alors, il faut s'armer de beaucoup de patience et surtout investir considérablement dans des avocats qui vont pouvoir faire le travail des enquêteurs, alors mâcher un peu le travail et relancer la machine, faire en sorte que ça aboutisse. Donc ça n'existe plus. Moi, je constate qu'on se tiers-mondise. Je pense que c'est un peu la poule et l'œuf. C'est-à-dire, je pense que parce qu'on se tiers-mondise, on a des services publics dans cet État. Et parce qu'on a des services publics dans cet État, on se tiers-mondise, on accepte.
L'argent est là pour
tiers-mondisation. Moi, j'observe. Écoute, moi, je vois.
On va pas baisser les budgets, au contraire, on les a augmentés. Le sujet de la justice, par exemple.
Je vois plusieurs problèmes.
La police aussi.
Je vois des problèmes en haut et en bas et au milieu. C'est-à-dire, je vois un problème en haut parce que je pense que on a en France un problème de concentration des richesses et du pouvoir dans les mains d'un très petit nombre de personnes et que ce bug du système libéral qui normalement doit être corrigé, régulé, mine l'ensemble de la chaîne, premièrement. Et je constate que nos responsables publics font rien pour aller contre ça parce qu'ils sont extrêmement soumis, surtout sous Macron, aux Français les plus fortunés, les plus puissants. Deuxièmement, je constate un problème au milieu avec beaucoup de gens qui ne veulent plus travailler. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qui existe partout, dans le privé, dans le public.
Où passent ces gens?
Par exemple, je te donne un exemple, mais quand tu veux accéder à certains services publics, mais ça n'est qu'un exemple, il faut vraiment viser le bon horaire. Et là, je le dis sans caricature, c'est-à-dire attention à pas débouler après 16h32 ou à la pause déjeuner ou machin.
Donc, c'est comme vouloir prendre un bus le dimanche, par exemple.
Je trouve qu'il y a, je pense qu'il y a eu un problème avec les 35 heures. Il y a une difficulté comme ça. Et enfin, il y a un problème en bas parce qu'il y a aujourd'hui, il y a une forme, oui, qui rejoint le problème. Il y a un problème d'assistanat avec des gens qui ne voient plus l'intérêt de travailler. Donc, tout ça mériterait de se retrousser les manches à tous les étages, mais je constate que ça n'est pas du tout le chemin qui est pris par le quinquennat Macron, où on distribue de l'argent sans vraiment flécher cet argent et où on n'exige pas vraiment une efficacité de nos services publics. Dernier exemple, et j'en termine par là, j'espère que Jean Castex, dont je n'attends rien, qui est maintenant patron de la RATP, va remettre cette boîte en marche, puisque moi qui prends le métro tous les jours et qui régulièrement m'exaspère de voir, par exemple, sur la ligne 8 du métro, des métros bondés et qui pourtant arrivent à intervalles assez éloignés, surtout par rapport aux heures de pointe. J'apprends, en fait, je me dis, bon, de technique, peut-être qu'on peut pas empiler trop de métros les uns à la suite des autres. Je suis de bonne foi, je me dis, je ne peux quand même pas imaginer que c'est parce qu'on manque de conducteurs. Eh ben si, c'est parce qu'on manque de conducteurs, c'est parce que la RATP n'est pas foutue, dans un pays où il y a 10 millions de chômeurs, de mettre des gens au volant de ces putains de rames de métro. Et donc ça, je trouve que c'est pas possible.
Je crois qu'il y a eu un passage qui a été évident, c'est le Covid. Ça a changé complètement notre société. Moi, je pense que l'avènement du Covid.
Il y a des services publics qui n'allaient pas bien.
Non, mais je crois que ça s'est vraiment empiré. Mais alors, c'est vrai qu'on a un problème, deux problèmes, je dirais, au niveau des de nos institutions. Et moi, je le vois parce que je travaille souvent avec ma mairie, avec les institutions, les Comcom, les départements, les régions, etc. Pour avoir quelqu'un en ligne, c'est la croix et la bannière. Il y a tellement de services qui se multiplient, qui se superposent, qu'on ne sait plus à qui on a affaire. Et parfois,
on a inventé un monstre bureaucratique aussi.
Ouais, terrible.
Mais parce qu'on a fait une décentralisation. Qui n'en est pas une.
Et le deuxième,
Ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, moi, qui est ressorti d'ailleurs du Beauvau de la sécurité pour la police, je parle, c'est le management. Il y a vraiment une nécessité d'être un chef de guerre lorsqu'on est chef d'entreprise, lorsqu'on est chef d'une entreprise, etc. C'est de manager des gens. Et c'est vachement compliqué dans notre société actuelle. De donner envie aux gens de bosser, de se dépasser, c'est un vrai.
On peut pas dire que le management dans les services publics soit souvent si
complètement. Mais le management dans les services publics, c'est du petit chefferie, c'est de la petite chefferie. Tout à fait. Pour bien se voir du celui qui est au-dessus et bien se voir de celui qui est au-dessus.
Et c'est pour que des questions de carrière.
Et qui tape et qui c'est qui prend, c'est le petit fonctionnaire d'en bas.
Mais comme on n'est plus dans l'humain, on est en train de détériorer nos services publics.
Le courage de changer ça.
Privé, je pense.
On a un problème aussi. Parce qu'Emmanuel Macron, il avait été un peu élu en 2017.
Mais bien sûr.
Le courage de faire la réforme.
Mais moi, je me tue à dire ça depuis longtemps. Les gens ont voté Macron en pensant qu'ils auraient En Marche, c'était quoi? Le redémarrage de toutes ces inerties. Finalement, on s'est retrouvé sous l'ancien régime. Je persiste à le dire. Et d'ailleurs, je pense que le fait que nos décideurs publics soient à ce point-là dans le fromage, puisqu'il faut voir ce que c'est, pardon, ça passe pour du populisme, mais c'est réel, je veux dire. En France, tous les anciens ministres de l'Intérieur, tous les anciens premiers ministres ont voiture avec chauffeur et garde du corps à vie. En France, vous êtes Agnès Buzyn, vous êtes mise en examen pour avoir pris vos jambes à votre cou au moment de la crise du Covid, et vous êtes pourtant médecin. On vous trouve un job de pantouflage total à la Cour des comptes, payé une tonne. En France, vous êtes Pierre Moscovici, patron de la Cour des comptes, vous cachetonnez à 25 000 euros par mois. Un député vous pose la question en commission. Vous avez la patronne de la commission, députée En Marche, qui coupe le micro du député. En France, vous êtes Florence Parly, vous êtes payée 60 000 euros par mois à la SNCF. Faut quand même le faire d'être payé 60 000 euros par mois à la SNCF. Ah bon. Vous êtes promu ministre et vous êtes envisagé comme premier ministre quand on cherche une
place. Ça, ça a été régulé quand même.
Donc, pardon de vous dire que quand vous avez une élite administrative à ce point-là dans le fromage, c'est-à-dire en fait une nomenclatura, comme il y en a eu dans les pays soviétiques, vous pouvez pas attendre de ces gens-là
qui se réforment,
qui réforment la moindre chose, puisque eux-mêmes,
ils en profitent,
eux-mêmes seraient la première chose à réformer.
Mais cher Charles, tu parles d'or, tu as utilisé le terme qui convient. L'ancien régime, nous sommes aujourd'hui dirigés par une caste de privilégiés.
Bien sûr.
Qui ressemble tout à fait aux privilégiés d'ancien régime. Oui, donc à un moment donné, et dans le tiers état moderne,
post-moderne, ils n'ont pas conscience qu'ils prennent pas le métro.
Mais bien sûr qu'ils en prennent conscience
ils se soignent à l'hôpital américain.
C'est vrai, ils seront pas victimes. Leurs enfants atteints de bronchiolite.
Les enfants sont à l'école bilingue.
Les enfants de Papendia sont à l'école alsacienne.
Franklin, où Madame Macron était professeure.
À l'école alsacienne.
Les enfants sont à Franklin. Les malades sont à l'hôpital américain.
Il a raison.
Les vieux sont dans des trucs à 15 000 euros par mois.
Quoique, on a vu qu'à 15 000 euros, c'était pas forcément
bien. Eux-mêmes, ils sont dans des voitures flambant neuves. On les voit passer dans Paris avec leurs pimpons, etc. Ils sont pas sur la ligne 8 du métro Ballard. En tout cas, je ne les croise pas. Pardon. À part d'ailleurs Castex. Rendons à Castex, à tout seigneur.
Il prend pas seulement le
passeport. Il a renoncé et il faut le souligner.
Mais ça, c'est une
avec les petits fonctionnaires, la catégorie C,
tu peux rien réformer quand tu as ça à la tête.
Nous, au quotidien, tout à l'heure, Charles disait, oui, il faut pas arriver en retard, etc. Chez les petits fonctionnaires de bureau, parfois, ils ont peut-être pas l'instinct de la grande démission, mais ils ont même plus l'instinct de la grève du zèle, ils ont même presque l'instinct de la grève du boulot. C'est-à-dire qu'ils en ont tellement ras-le-bol de ce boulot sans intérêt, pas de sens, avec le petit chef de bureau qui arrive comme ça. Alors, c'est peut-être plus dans des bureaux fermés, il y a peut-être des open space, mais c'est toujours la même mentalité pourrie. Ils disent, bah, vous savez quoi? Moi, Quand il y a écrit que c'est fermé à 16h30, vous savez quoi, ça va vraiment être fermé à 16h30. Là où il y a peut-être 30 ans,
il y a plus d'exemplarité,
on continuait à essayer de recevoir les gens.
Donc il y a écrit que c'est fermé à 17h et donc ils commencent à prendre leurs affaires à 16h30 pour être sûr d'avoir fermé à 17h.
On dégoûte les gens, les enseignants. Moi, j'ai connu plein d'enseignants. Moi, je suis partie parce qu'à un moment donné, je sentais que j'étais à deux doigts, effectivement, d'être non seulement dans la grève du zèle, mais même d'être dans la grève du boulot, parce que j'en avais ras-le-bol. Et j'ai plein de collègues qui, eux, ont décidé de pas franchir le pas parce qu'il faut énormément de courage. Excusez-moi de me donner ce crédit, mais il faut du courage pour se retrouver sans boulot, parce que la disponibilité, c'est du congé sans solde. Mais moi, à un moment donné, j'ai dit c'est ça ou je pète un plomb et je maltraite mes élèves vraiment. Mais j'ai des collègues. Ils foutent plus rien. Ils foutent plus rien. Ils vont sur des sites internet, ils prennent des cours tout faits, et puis voilà, ils donnent ça à bouffer aux gamins, c'est tout. Parce qu'il y en a ras-le-bol.
Ce qui est désespérément, c'est que ce constat est fait quand même depuis longtemps, avant le Covid, Bruno. Les problèmes de l'école, l'hôpital, c'était bien avant le Covid. La justice, on en parlait ici, mais dans les grandes gueules, il y a 10 ans. Le problème, c'est qu'on ne voit pas qui politiquement pourrait avoir ce courage de réformer l'État, de remettre à plat ses missions régaliennes de l'État et dire bon, ça ne fonctionne pas, comment on fait pour que ça fonctionne, parce qu'il va falloir bouger les corporatismes, il y a beaucoup de corporatismes là, la magistrature, etc. Qui aura le courage? Et ce qui désespère les gens, c'est que je pense que les gens pensent qu'il n'y a personne aujourd'hui dans la classe politique capable de faire le job.
Alors moi, je veux que les gens
il faut que chaque ministre fasse son staff. Moi, je ne prends un domaine que je connais bien, c'est la police nationale. Il y a quand même une réforme qui est en cours. On peut le dire ce qu'on veut. Il y a eu le Beauvau de la sécurité, le livre blanc. Il y a quand même une réforme qui est en cours. Oui. On sait que la police
notamment
souffre.
La réforme de la PJ.
Mais non, mais la réforme de la PJ, elle est très bien. Mais bien sûr, il a fallu la réforme.
Elle est très populaire.
Oui, bien sûr.
Idée.
Mais parce que ça ne touche qu'une caste de la PJ à haut niveau. Tous ceux qui font de la PJ dans les commissariats, je peux te dire qu'ils n'ont pas le même avis. Et ça, c'est encore une fois.
Non, mais
c'est
du casse-tête. Ils espèrent que les mecs de la PJ feront le bureau des autres.
Non, parce que le petit PJ reconnaît que si, dès qu'on bouge des choses, il y a toujours des gens. Qui. Parce que c'est normal. C'est humain, on est dans le conservatisme.
L'Assemblée
nationale, dès que tu bouges un truc, tu as forcément
90%
une partie du personnel qui est vendu.
Mais la question, c'est qu'est-ce que tu bouges quand tu bouges des éléments qui n'ont pas à être bougés, mais que en haut, par contre, ça bouge pas. Quand dans les rectorats, ça bouge pas. Quand les inspections, ça bouge pas.
Quand Macron, qui c'était d'ailleurs sa seule réforme de système de son premier quinquennat, là le deuxième, il y en a pas. Voulait changer les retraites, mais vraiment une réforme systémique en faisant une retraite à la carte. Bah oui, tous les corporatismes sont vendus.
Sur les syndicats, tout le monde qui crée
le plus juste que celle de faire bosser tout le monde à 65 ans.
Même son Premier ministre, il n'en voulait pas de sa réforme.
Mais parce que Edouard Philippe, c'est un conservateur. C'est une réforme, effectivement,
réformatrice.
C'est vrai que c'est plus facile de faire bosser les ouvriers à 65 ans.
Macron n'a qu'à être Louis XIV, il n'a qu'à gouverner tout seul sans Premier ministre aussi. Ça l'arrangerait d'ailleurs.
On reprend la discussion dans un instant avec Jérôme, qui est du Vaucluse, qui est technicien numérique, pour parler avec lui de ses services publics. Est-ce qu'aujourd'hui, franchement, c'est la honte? Pourquoi ça dysfonctionne? Est-ce que c'est juste une question de ressources humaines, de management, question d'argent, 32-16 pour en parler avec les GG.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC et RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Barbara Lefebvre, avec notre ami Bruno Pomard et Charles Consigny, et Jérôme qui va intervenir dans notre discussion. Bonjour Jérôme.
Bonjour à vous.
Bonjour. Et ça va Jérôme?
Eh bien et vous?
Mon cher Jérôme, on est là à parler des services publics, à se demander si on a honte aujourd'hui de nos services publics. Qu'en dites-vous, vous ?
Oui, il y a de quoi avoir honte de comment ça se déroule, mais après, ça a été fait il y a pas mal d'années. C'est que avant, les budgets, ils étaient alloués et on ne pouvait pas les faire, par exemple, pour la Sécu, ils y touchaient, par exemple, 5 milliards d'euros. Mmh, ouais. Et c'était vraiment alloué à la Sécu. Maintenant, en fait, ça va tout dans un pot commun. Et on dit, tiens, on va donner que ça à la Sécu. Et ils se démerdent avec ça. Et ça, c'est une honte. Avant, c'était, par exemple, pour les routes, je me rappelle de quand j'étais tout petit, les routes, elles étaient super belles. Et tout ça parce qu'il y avait le budget. Dès qu'il y avait un petit nid de poule, hop, on bouchait. Mmh. Ou même quand il y avait trop de sous, ils faisaient la route alors qu'il n'y avait pas besoin. Mais on avait toujours des routes nickel. Alors ça avait un coût, c'était des dépenses un peu des fois superficielles, mais on avait un service au top. Et en fait, l'Union européenne, elle a demandé qu'on arrête de louer des montants fixes et que tout aille dans un pot commun. Et après, les politiques, ils font ce qu'ils veulent avec le pognon. Mmh. Et c'est ça qui fait que maintenant, nos organismes, enfin nos services publics deviennent une honte parce qu'on n'a plus nos montants alloués.
Mais vous avez raison, sur l'état des routes.
Hein. Oui, les départementales et nationales.
Et parce que tu sais quoi, le social prend tellement d'ampleur dans les départements, moi je le vois. Il y a un fric sur tout ce qui est mineurs isolés, mineurs dans nos campagnes, etc. Ça coûte un fric, le social coûte très cher aux départements et aux collectivités. Donc ce qu'on met là, on ne le met pas ailleurs. Hein. C'est clair, il n'y a pas de photo.
Alors pour Jérôme, c'est une question de la manière dont on alloue les budgets. Amine, lui, est fonctionnaire territorial. Bonjour Amine.
Bonjour à toute l'équipe.
Mon cher Amine, tiens, alors fonctionnaire territorial, est-ce qu'aujourd'hui vous avez honte quand vous dites que vous êtes fonctionnaire ou pas ?
Non, pas du tout. Au contraire, c'est même une fierté. Moi, j'entendais tout à l'heure, alors je ne sais plus, l'un d'entre vous disait que dans notre pays, il y a une forte taxation, ce qui est vrai. Hein. Bon, d'abord, on est dans un pays extrêmement riche, avec beaucoup de services publics, il faut le dire. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas une question de moyens. C'est surtout que les moyens sont mal répartis, notamment sur le territoire. Les territoires, par exemple, les plus insécures sont ceux où il y a le moins de policiers par habitant. Et surtout les moins expérimentés. Et ça, on peut le vérifier, par exemple, sur les territoires où vous avez le plus d'échecs scolaires, et je crois qu'il y a une enseignante autour de la table.
C'est là qu'il y a les profs les moins expérimentés.
Exactement, c'est là où on envoie les profs les moins expérimentés. Parce qu'il y a un système qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Ensuite, c'est un exemple qu'on peut retrouver à chaque fois. Dans les territoires qui connaissent le plus de chômage sont les territoires où il y a le moins de conseillers de Pôle emploi par habitant. Ça, c'est une réalité. Et par ailleurs, donc on constate quand même une forme d'aberration dans la manière dont nous dépensons tout cet argent public issu de la taxation. Il y a 600 taxes en France. Et la deuxième chose aussi, tout à l'heure, l'un d'entre vous disait que la fonction publique n'intéressait plus. Alors, c'est vrai pour la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière, parce que je rappelle quand même que le point d'indice a été gelé pendant plus de 10 ans et que on a les fonctionnaires d'État ont vu leurs revenus extrêmement être baissés.
Ah bah c'est un déclassement social énorme.
Alors même que le coût de la vie, lui, grimpait en flèche. Ce qu'on ne retrouve pas dans la fonction publique territoriale, et c'est celle qui attire le plus aujourd'hui, parce que vous avez à la fois le régime indemnitaire et le régime indiciaire. Et le régime indemnitaire, qui est beaucoup plus favorable dans les collectivités, permet aujourd'hui d'attirer plus de fonctionnaires.
Oui, mais justement, le problème, quand même, Amine, c'est que dans les collectivités territoriales, il y a eu un millefeuille administratif avec des doublons, énormément de doublons.
On a inventé des postes dont on n'avait pas besoin.
Les grandes régions au sein des collectivités territoriales et des doublons avec le national. Donc, ça pose quand même souci, quand même.
Amine ?
Alors, c'est pas faux, c'est-à-dire que, mais c'est la preuve qu'il y a des moyens, qu'il existe encore des moyens aujourd'hui.
Oui, mais ils sont pas bien utilisés. Amine, le problème, c'est que, qu'on a créé un monstre bureaucratique qu'il faut nourrir. Alors qu'on nourrit, mais qui en plus ne produit pas, parce qu'à la limite, on pourrait payer beaucoup d'impôts. Et si ça fonctionnait bien, on serait content, on serait fiers. On a été fiers pendant longtemps. On disait notre système de santé est le meilleur du monde. On était fiers de notre système
de
santé.
Les Suédois, ils sont
on disait que l'éducation nationale, quand même en France, l'éducation nationale, c'est l'école pour tous. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est l'éducation nationale reproduit les inégalités et parfois même les accentue. C'est-à-dire qu'il faut être, il faut mieux être parisien, fils de prof, que effectivement grandir en Seine-Saint-Denis pour réussir à l'école. Donc c'est un système qui est en fait fait pour les élites ou pour ceux qui sont dans le système.
Mais Amine, vous qui êtes fonctionnaire territorial, regardez les méga-régions qu'a créé Valls. Il y en a eu 11 ou 13, je ne me rappelle plus.
Hollande.
On n'a pas supprimé d'ailleurs les...
Mais bien sûr que non, moi je vois dans la région
où
je suis, l'Occitanie, il y a toujours les mêmes administrations à Toulouse et à Montpellier. Il y a des allers-retours en bus, un truc qui coûte un fric monstre.
Parce qu'on n'a pas eu le courage de dire on supprime un pour garder l'autre.
Amine, les fonctionnaires, on les laisse en place. En commençant le propos, pardon Amine, vous avez dit, moi je suis toujours fier d'être fonctionnaire et fonctionnaire territorial. Mais d'où elle vient cette fierté alors justement ? Pourquoi ? Expliquez-nous.
Le service public, on dit souvent, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et en Seine-Saint-Denis, c'est une réalité qui se vérifie puisque c'est l'un des territoires les plus pauvres de France et sans doute celui où il y a le plus besoin de services publics. Alors peut-être que c'est peut-être moins le cas ailleurs, mais en Seine-Saint-Denis, je vous assure que si il n'y avait pas le service public pour permettre à un certain tout un tas de nos concitoyens de continuer à vivre au quotidien, et ben ce serait une véritable catastrophe. C'est pour ça que je dis que c'est une fierté parce que autant c'est on peut comment dire on peut on peut faire l'impasse sur un certain nombre de services publics dans certains territoires. Autant en Seine-Saint-Denis, c'est un véritable maillon extrêmement important.
Mais parce que si en Seine-Saint-Denis,
dans les territoires ruraux, c'est pareil.
On a aussi,
hein,
on a aussi concentré tous les problèmes dans le même département. Là aussi, il y a eu une défaillance de l'État dans le sens où on a concentré tous les problèmes dans le même département. Évidemment. On a fait venir des vagues migratoires dans le même département. Et après, on s'étonne que tout ça ne fonctionne pas.
Alors,
on
a les plus. Ça, c'est une responsabilité qui incombe à plusieurs acteurs. Oui, l'État a été défaillant.
Les élus aussi.
Et les élus locaux également.
Fait l'électoralisme.
Oui, le clientélisme électoral, ça arrange bien. Hein.
Allez-y, Amine.
Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre ma pensée sur la question du logement social. Vous avez tout un tas de communes aujourd'hui qui ne respectent pas les dispositions de la loi SRU qui impose un certain nombre de logements sociaux. Et c'est parce que ces communes-là ne respectent pas cette règle-là que d'autres sont obligés d'avoir 50, 60, voire 70% de logements.
Oui, mais attention, c'est aussi par des choix électoraux.
Excusez-moi, Amina, dans le logement social, il y a des gens.
Vous avez aussi des
gens dans le logement social, je suis navrée, qui n'ont pas à y être. Et vous avez des gens qui attendent des logements sociaux depuis 10 ans, qui devraient y être. Donc, les logements sociaux, il faudrait vraiment tout remettre à plat. Parce que, excusez-moi, se repasser le logement social de père en fils.
Daniel Simonet est parti.
Oui, non, mais. Parce que, il n'y a pas que Daniel Simonet. Il y a
19
aussi,
ans après.
Je veux dire, moi, on connaît des familles, on repasse le logement social à l'enfant. Non, mais ça va pas ou quoi?
Il y a un député socialiste qui a réussi à recaser sa femme dans le logement social et le bailleur trouvait que c'était normal.
Mais bien sûr.
Donc effectivement,
le logement social, ça mériterait d'être mis complètement à plat. Et il y a aussi bien des maires qui accepteraient peut-être plus de logements sociaux si les logements sociaux bénéficiaient vraiment à ceux qui en ont besoin.
Amine,
et aujourd'hui, c'est pas le cas.
Non, d'abord, il y a des règles qui ont beaucoup évolué dans le logement social. C'est-à-dire qu'on peut plus aujourd'hui se passer un logement de père en fils sans que ce soit encadré, sans qu'il y ait des passages en commission, etc.
La deuxième chose.
C'est que le logement social, on en a besoin. Et il y a aujourd'hui, parmi les élus locaux, alors oui, il y en a qui en abusent, hein, qui peut-être le font, construisent plus de logements sociaux parce que il y a une volonté électorale derrière.
Évidemment.
Mais il y a aussi des élus locaux qui jouent pas le jeu. Et je le dis, c'est-à-dire que si aujourd'hui, dans certains territoires, il y a plus de précarité, c'est notamment parce que d'autres.
Ah bah c'est sûr
que
si un élu local ne joue pas le jeu, il ne devrait pas pouvoir se représenter.
Ah oui, mais peut-être qu'il ne joue pas le jeu parce qu'il voit ce qui se passe dans les quartiers où il y en a beaucoup.
Ils sont pénalisés financièrement, mais ils ne sont pas pénalisés. On devrait.
On va terminer avec Anne qui est avec nous, qui nous appelle du Var. Bonjour Anne.
Bonjour.
Bonjour Anne. Alors,
je vous appelle parce que je suis en fait, je suis aide-soignante depuis 20 ans dans un hôpital et effectivement, ça devient catastrophique. Moi, je sais que j'ai vu la situation se dégrader au fur et à mesure des années. J'ai vu des plannings qui deviennent des plannings de folie. On est rappelé sur repos, on nous supprime les congés. Et puis, on a l'impression vraiment qu'on est, entre guillemets, on est des serviteurs des patients. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les patients ne sont plus des patients, ce sont des clients. Donc, le client dit « je veux et j'exige ». Sauf que, malheureusement, à Casino, on a les moyens de satisfaire les clients, mais dans le milieu hospitalier, on n'a pas les moyens de satisfaire les clients.
C'est un problème de management, c'est ça le souci, Anne, ou pas, alors?
Oui,
l'attitude des patients, apparemment.
Oui, l'attitude des patients et l'attitude du management, parce que on a des couches et des couches de chefs, de sous-chefs, le cadre sup, le cadre en dessous du sup, voilà. Le cadre de proximité. Donc, il y a un moment donné, tout le monde veut faire un petit peu sa carrière, donc tout le monde veut mettre un petit peu son empreinte dans l'histoire. Donc, résultat des courses, dès qu'il y a un souci, ben, c'est soit l'infirmière, soit l'aide-soignante, soit l'ASH qui prend, parce que de toute façon, nous, on se retrouve en face du patient.
Et ils sont utiles, ces gens de l'administration, ou pas?
Pardon?
Ces gens de l'administration, ils sont utiles?
Oui, ça, il faut savoir qu'ils sont utiles, mais ils ne sont pas obligés d'être tant à ce niveau-là. Il n'y a pas besoin d'avoir...
Ils sont en surnombre, plus qu'en Allemagne, par exemple. La proportion entre administratif et soignant est beaucoup plus importante chez nous qu'en Allemagne.
Oui, c'est important que Anne souligne, c'est important qu'il y ait le cadre infirmier ou le cadre aide-soignant qui fait les plannings, etc. Mais
ce serait bien aussi...
que ce cadre, il soit un peu plus sur le terrain et qu'il n'y ait pas au-dessus du cadre un autre cadre et au-dessus du cadre un autre cadre. Et
tout genre. Le même problème à SNCF.
Et les process et les reporting, ça va bien 5 minutes.
On a fait du management. On a voulu le management en mettant des strates intermédiaires. Et au résultat sur le terrain, tu n'as plus personne.
Ils sont plus. Ils sont combien au service communication ?
Parce que si on ne fait pas confiance, on ne fait pas confiance à celui qui travaille.
Sur le terrain,
encore un monopole.
En France, qu'on soit dans le privé ou dans le public, on ne fait pas confiance à celui qui travaille. Alors que.
Celui qui est sur le terrain.
Fut un temps. Et il n'y a pas si longtemps que ça, jusque dans les années 60-70, avant justement que ce management à l'américaine arrive, il y avait justement le chef, il donnait son job à faire à son salarié et puis lui disait, quand t'as fini, on en reparle. Maintenant, c'est non. Pendant tout le temps où tu le fais. Alors, tu m'as fait le process, tu m'as fait le reporting, tu m'as rempli le fichier, tu m'as
machin.
En permanence, on est fliqué, alors que dans le monde du travail à la française, parce que la culture du travail à la française, ça diffère de la culture du travail à l'italienne, etc. Je renvoie aux travaux de Philippe Diribin. L'idée, c'était, mon chef me donne un boulot, il me fait confiance et on check à la fin quand j'ai fait ce que j'avais à faire. Si je le fais dans les temps, c'est tant mieux. Si je finis avant, mais maintenant, non. Il y a la manie de checker, il y a la manie d'espionner de parce vérifier. Qu'on soupçonne toujours de tirer au flanc. On soupçonne toujours que tu vas essayer d'en faire moins que possible.
Au même titre que tu ne revois plus, tu ne revois pas, et on le voit nous dans la police, la hiérarchie intermédiaire sur le terrain.
Exactement.
C'est-à-dire sur le terrain, tu retrouves le gardien de la paix titulaire avec deux stagiaires. Par exemple, avant, moi, de mon temps, j'avais un brigadier de police ou un major avec moi sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire ?
Il est où, là, ce major ?
Il tape la machine.
Ah. Ouais.
C'est ça, le problème. C'est ça, c'est un vrai problème. Et dans toutes les administrations, c'est
Merci
ça.
Merci, Anne, d'avoir été avec nous. La question que l'on a posée, c'est est-ce que c'est la honte aujourd'hui, les services publics ? Oh, bah, donc, c'est un oui à 92%, comme disait l'autre, l'affaire est pliée. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, les indiscrets grandes gueules, la guerre déclarée au RN, l'avènement de Jordan Bardella, mais pour constituer le bureau exécutif, ça n'est pas simple. On vous raconte les coulisses de la guerre des petits chefs au Rassemblement National. À tout de suite avec les GG.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, Barbara Lefebvre, Charles Consigny, Bruno Pomard sont nos grandes gueules, sont avec vous hein, depuis 9h ce matin jusqu'à midi. Vous rattrapez la première heure déjà des GG en podcast. Vous pouvez aller sur notre site internet ou sur l'appli pour rattraper ce qui s'est déjà dit dans les grandes gueules. En attendant, on y va pour les indiscrets GG.
RMC, les grandes gueules.
Les indiscrets.
Rendez-vous politique d'RMC avec Hélène Terzian. Bonjour Hélène.
Bonjour les grandes gueules.
Petite turbulence là à RN après les propos jugés racistes d'un de ses députés dans l'hémicycle. Le sacre de Jordan Bardella à la tête du parti est entaché par un petit début de fronde. Hélène, vous nous dites ce matin, en fait, c'est même plus une fronde, c'est la guerre qui est déclarée.
Eh oui, ce week-end, hein, vous l'avez entendu, c'est Steve Briouat qui a semé la zizanie. Le maire de Hénin-Beaumont, très proche de Marine Le Pen, très en colère après avoir été évincé des instances dirigeantes du parti, à peine Jordan Bardella élu, il s'est fendu d'un communiqué, il s'est dit très inquiet d'une re-radicalisation du mouvement. Et ce n'est pas fini. Cette fois, c'est le député du Pas-de-Calais, Bruno Bild, son acolyte du clan dit d'Hénin-Beaumont, qui hausse le ton et qui se confie à RMC. Lui aussi, c'est un artisan de la ligne sociale du RN, très intime de la chef. Et voilà ce qu'il me dit. Le premier acte de Jordan Bardella, c'est donc de décapiter Hénin-Beaumont, symbole du marinisme et fief de Marine Le Pen, c'est étrange. Il va même jusqu'à menacer de claquer la porte du parti si jamais je sens que la ligne sociale change, si c'est la ligne identitaire et conservatrice qui l'emporte, eh bien ce sera sans moi. Voilà le message qu'il a tenu à faire passer et qu'il fait passer au passage à l'état-major du RN.
Alors comment est-ce qu'on réagit dans les instances dirigeantes du parti justement ?
Officiellement, l'heure est à l'apaisement. Le nouveau bureau national du RN s'est d'ailleurs réuni hier et cette fronde n'a été que rapidement évoquée, hein, dit un participant, renvoyé à un conflit de personnes, pas à un conflit politique. Bref, ça va passer, cette guerre des clans, c'est ce que m'ont répété plusieurs sources. Il n'est pour le moment, pas question de sanctions à l'égard de ces figures historiques, il faut le dire, du RN.
Pourtant, Hélène, certains estiment qu'ils sont allés trop loin.
Oui, et que d'autres ont été virés pour moins que ça. Voilà ce que me dit un collaborateur parlementaire du RN. Il vise surtout ce cadre Steve Briouat, qui est à l'origine du psychodrame de ce week-end. Visiblement, certains députés, certains cadres du parti souhaiteraient carrément son exclusion du mouvement. un cadre du Rassemblement National et même plus cash à l'égard de ceux qu'il estime être des traîtres. Les gens qui mettent des pots de banane, eh bien, il faut les dégager, dit-il. Sauf que ce n'est pas si simple que ça, parce que Marine Le Pen, eh bien, elle est élue du Pas-de-Calais, Hénin-Beaumont, c'est son fief, elle est élue dans la circonscription d'Hénin-Beaumont. Alors, elle a aussi besoin de ce clan très implanté, ce clan qui a œuvré depuis 20 ans à peu près à son succès, à sa stratégie de dédiabolisation. Alors forcément, elle est embêtée, me dit-on, dans l'entourage de ce clan d'Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont, où Marine Le Pen, elle a l'habitude d'aller aussi le 11 novembre pour les cérémonies, donc elle devrait être aux côtés de Steve Briouat ce jour-là. On verra si c'est une photo de famille.
Pour qu'elle tranche entre Jordan et Steve.
C'est ça.
La lutte des égos est engagée là, et ça c'est pas bon pour un parti. Quand ça commence comme ça,
c'est un parti comme la nôtre finalement. C'est ça.
Oui, ça va le devenir. Mais en même temps, comme tu le disais à l'instant, c'est que Hénin-Beaumont, ça reste la naissance quelque part de l'électorat local. Non,
ce qui est étonné, Barbara, c'est
ça, c'est un vrai problème.
Si vraiment il n'a pas attendu longtemps avant de se plaindre.
Il n'a pas attendu parce que non plus Jordan Bardella n'a pas attendu très longtemps pour le virer. C'est-à-dire que c'est quand même très étonnant. Jordan Bardella est à peine élu. Non mais. D'accord. Mais c'est une question de timing. En politique, il y a aussi des questions de timing. Donc, on peut attendre le congrès, faire la fête tous ensemble. Ils auraient très bien pu tous se taper dans le dos et on est tous copains. Et vient donc Louis Alliot que je te prenne dans mes bras. Enfin bon, on pouvait donner l'image d'une alliance. Et puis ensuite, dans les semaines qui viennent, dire, voilà, Steve Briouat, Bruno Bilde, par des mesures et des process, on va dire, internes au parti, le faire discrètement. Là, à peine élu, il le vire. Je veux dire, Steve Briouat, qui a été, comme l'a très bien dit Hélène, un des acteurs, vraiment, ils ne peuvent pas laisser passer ça.
D'accord, mais ça aurait été Marine Le Pen, il n'aurait jamais fait ça.
Marine Le Pen ne l'aurait jamais viré du bureau, surtout.
Il se permet ça parce que c'est face à Jordan Bardella.
Et parce que Marine Le Pen ne l'aurait pas viré du bureau.
On voit bien le danger que représente un RN qui n'appartient plus au Le Pen. C'est-à-dire que ça devient un parti comme les autres, avec des ambitions. Briouat a sans doute ses ambitions, Bardella, Louis Alliot, etc. Et Marine Le Pen va se retrouver à gérer tout ça, c'est nouveau. Ça. Oui, avant c'était elle le parti. Donc tu t'opposais pas à Marine Le Pen, sinon tu te barrais comme Philippot.
Et ben c'est là que
faire Mélenchon avec la France insoumise aussi.
Mais c'est intéressant, c'est là qu'on va voir si Jordan Bardella est vraiment un chef, c'est-à-dire si vraiment il sait diriger un parti, parce que si sa façon de diriger un parti c'est de couper les têtes de ceux qui lui conviennent pas, il va avoir du mal au Rassemblement National. Hein.
Moi je trouve qu'il y a un sujet de fond parce que je comprends pas la complaisance médiatique dont fait l'objet Jordan Bardella. Je veux dire, il ne sort que des horreurs. On a l'impression d'entendre des fachos italiens. Il coche toutes les cases du petit néo-fasciste à l'européenne, mais parce qu'il présente bien, qu'il sourit, qu'il est sympa, etc. On le laisse dérouler son discours crypto-zémourien comme si de rien n'était. Moi, je trouve que c'est un vrai sujet. Je trouve que les médias devraient quand même faire leur travail de mettre en perspective ce que c'est réellement que ce jeune homme qui est en train de faire sa carrière en proférant des propos qui, moi, me semblent absolument effrayants.
Merci, Hélène Terzian. On y va demain, ma chère Hélène. Voilà, hop, le petit capuchon du stylo, important.
Ah bah ça, pour le service politique, ils ont tous un petit stylo.
Si tu n'as pas le petit stylo bic avec pour les capuchon, c'est foutu. Allez, on y va pour le quiz des GG.
En direct du plateau 3 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Bonjour ma chère Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Vous allez bien ?
Bonjour Anaïs.
Anaïs qui a été reconnue au mondial du tatouage.
Ah oui,
non, elle fait des selfies.
Non mais j'en profite. Mais
pourquoi déjà elle va au mondial du tatouage,
je n'ai pas de tatouage les amis, mais j'étais invitée. C'était par curiosité.
Tête de Barbara Lefebvre tatouée dans le dos.
Je passe un grand bonjour à Ronan, téléspectateur et auditeur des GG. Effectivement, dans les couloirs, j'ai été interpellée, ça m'arrive jamais. Un grand salut à Ronan à qui on enverra un petit t-shirt des GG. Les GG, est-ce que vous prenez l'apéro de temps en temps?
Oui,
pas Barbara.
Pas de temps en temps.
Ouais, combien en moyenne économiseraient les Français par an en arrêtant l'alcool?
L'alcool ou l'apéro, 3 ou 4 000 euros par an.
Vous êtes, vous avez juste 4032 euros français et par an selon une étude très sérieuse de monetransfer.com. Voilà ce que ça vous coûte, les GG, si vous buvez au moins 2 verres d'alcool par jour. C'est pas énorme. Ou 1 verre, bah, c'est donc 2000 euros d'économisés par an. De quoi largement pallier la hausse des factures d'énergie.
Ah bah, c'est ce qu'on picole, moi.
Et quelle est la région la plus consommatrice d'alcool, tiens?
La Bretagne.
Pas du tout.
Non, ça...
Le Nord, Pas-de-Calais.
Non.
L'Aube. Pas du tout.
Le Sud-Ouest.
L'Occitanie, c'est chez toi, c'est chez Bruno.
Tu vois, Barbara?
Avec 15 euros par Occitan et par jour d'alcool.
On est tous des ivrognes. Ouais, mais on fait travailler nos vignobles, nous, Barbara.
Et à l'inverse, la consommation la moins forte. La consommation la moins forte, c'est en région
parisienne,
de France, ouais.
Bah oui, ça m'étonne pas.
Les gens bossent.
Ils sont pas marins, vous êtes pas marins.
On est triste. On est triche. Ouais, vous êtes pas marins.
Les GG, vrai ou faux, des taxis volants vont voir le jour au JO de Paris 2024?
Oui.
Ah, de quoi?
Oui.
Oui, oui. Ça, j'y crois pas.
Des taxis volants. Au JO de Paris 2024.
On n'est pas foutu de mettre un conducteur sur la ligne 8 et on va avoir des taxis volants.
Non, mais là, c'est retour vers le futur, les amis.
Les ULM.
Non, mais c'est des essais, c'est vrai en plus.
Alors, info du JDD. C'est pas que des essais. Hein. Info du JDD. Hier, des taxis volants devraient survoler la capitale pour transporter les spectateurs au JO de Paris d'un point A à un point B en un temps record. Ça s'appellera Volocity. On va voir les images sur RMC Story. Ça ressemblera. Alors, soit des petits hélicoptères, soit des drones géants. Ils voleront à 200 mètres d'altitude, vitesse max 80 km/h pour une autonomie de 20 minutes. Bah, des gros drones,
C'est interdit de survoler Paris.
Ouais, bah là, il y aura des dérogations et ce sera une première mondiale.
La DGAC peut.
Nous l'avions présenté dans les GG Geek.
Ouais. Oui, c'est vrai.
La DGAC.
Delphine Sabatier, nous l'avait pas. Et à l'époque, on n'y croyait pas.
Ouais.
Moi, j'y crois toujours pas, mais bon.
Moi, si vous venez chez moi, je vous invite. J'ai un truc comme ça, moi, j'ai un Manigiro, c'est-à-dire que c'était l'ancêtre de l'hélicoptère. Et j'adore voler avec ça. Je vole en radada partout. En fait, je fais.
Ah bon, super.
Ah c'est un peu ça.
En radada, ça veut dire quoi, voler en radada?
C'est du pas de l'autre.
Pas que je le dise trop fort, parce que la DGAC va m'emmerder après.
Tu fais ça sur les super bassines.
C'est génial. Non, mais c'est génial. Et c'est vraiment le futur du transport, je pense.
Ouais, il faut un permis.
Ouais, il faut. Si vous venez chez moi, je vous invite.
Et on prendra des pilotes parce qu'on
n'a pas peur de mourir.
On volera en radada alors.
Oui, si vous n'avez pas peur de mourir.
Les GG. Mis à part Clémentine Autain, vous en parliez tout à l'heure. Qui réfléchirait aussi à se lancer en 2027.
Charles Consigny.
Oui, mais ça...
Non.
Au gouvernement.
Tous.
Olivier Véran, bah, bravo. Charles, c'est une indiscrétion du canard enchaîné. Olivier Véran aurait reçu des dirigeants d'instituts de sondage pour les questionner sur l'éclosion d'un candidat macroniste de gauche. Véran, peut-être l'héritier naturel de Macron.
J'ai mal à la côte gauche. Véran de gauche.
Il vient de gauche, de la gauche.
Ah, je pense que personne n'est de gauche.
Il vient du Parti Socialiste déjà, donc je sais pas si c'est.
Ah non, mais c'est... les mecs, ils ont peur de rien.
Ils sont de gauche quand ça les arrange.
Et enfin, les GG. Je vous en parlais vendredi de cette cagnotte du loto de 1,5 milliard de dollars aux États-Unis. Bien qui n'a pas été remporté.
2 milliards.
Du coup, nouvelle cagnotte, tenez-vous bien, à 1,9 milliard de dollars. C'est un record.
Ça, marrant, ça choque personne. C'est-à-dire que le salaire de Pouyanné, ça choque Barbara Lefebvre. Les 1,9 milliard qu'on va offrir à quelqu'un qui ne le mérite pas, puisqu'il a simplement gratté ou joué, ça choque personne.
Mais c'est pas du pognon de l'État,
monsieur. C'est les gens qui achètent des tickets.
Il n'y a aucun mérite, bon, c'est le hasard. Alors que quelqu'un qui, par son travail, est bien payé, on lui tombe dessus.
Non, mais tu crois que Moscovici, il est au mérite à 25 000 balles.
Côté populiste de monsieur.
Bon, bref, une chance sur 292 millions de remporter la cagnotte, autant dire que voilà. Est-ce qu'on peut jouer ici depuis la France?
Il faut avoir un cousin aux États-Unis.
Mais en revanche, pas besoin d'être américain pour jouer. Il faut en revanche résider aux États-Unis. Attention à tous ces sites qui proposent en ligne des grilles de ce loto en dehors du territoire américain. C'est de l'arnaque.
Bruno, il s'est fait avoir.
Oui, tu voulais jouer, je suis parti
en radada acheter un billet.
Et... il a traversé la Sandy.
Mais c'est énorme quand même, 1 milliard.
On est à presque 2 milliards. C'est une folie.
Merci ma chère Anaïs. Dans un instant, avec les grandes gueules, à vous de choisir. On vous a proposé 2 sujets d'actualité. Le chèque énergie fuel qui est versé à partir d'aujourd'hui, ou bien l'enseignement de l'allemand en voie de disparition à l'école. Est-ce que c'est inquiétant pour l'école? C'est sur Internet que vous trouvez ces 2 sujets. On verra pour lequel vous avez voté et on en parle ensemble au 32-16.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.